Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, 16h. Tout de suite, pas la peine de crier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité de cet après-midi s'appelle...
Alexouane Dizac.
Il est peintre, fin des années 80, début des années 90, on précisera tout à l'heure. Il découvre le graffiti, je l'ai vu encore récemment bomber des murs très officiellement près du canal à Paris. Nous lui offrons notre mur radiophonique pour une carte blanche musicale colorée. Dernière étape de cette semaine entièrement consacrée au mur, ça commence. Cette semaine, nous avons dit que de part et d'autre du mur de prison, l'enjeu était d'affiner la présence et le verbe pour donner ou rendre toute dignité due à tout être humain. Nous avons dit qu'un pinceau et une feuille de papier suffisaient à dégoupiller les slogans publicitaires qui envahissent nos murs et leur redonner, autant qu'à nous, la parole. Nous avons dit que le monde contemporain construisait des murs anti-pauvres, offrant une occasion remarquable à l'industrie sécuritaire de s'enrichir. Nous avons dit que les murs peints par Zoo Project existeraient tant qu'on y pensera et tant qu'à sa suite, d'autres prendront le pinceau. Humblement mais chaleureusement, nous vous invitons à réécouter ces 4 émissions. On s'occupe tranquillement de la 5e. Il est 16h, passé de 1 minute. Vous écoutez France Culture et c'est pas la peine de crier. Vers 16h13, si tout le monde se concentre, on fait apparaître un portrait canin sur le Polaroid. Vers 16h20, dernière étape d'une semaine entièrement imaginée, au pied du mur, par-dessus le mur, à travers les murs. Cette dernière étape est musicale. Comme tous les vendredis, quelqu'un s'empare de notre thème et propose en 5 morceaux sa propre vision du mot. Vers 16h50, nous vous offrons un dernier poème de Pier Paolo Pasolini et vous partez avec pour le week-end. Ensuite, il sera 17h et nous retrouverons Julie Gacon sur la route. Voilà aussi un dernier moment en compagnie de Stanislas Nordet. Le comédien vous lit un extrait du livre de Monette de Marcel Schwab. On écoute.
Parce que je suis seul, tu me donneras le nom de Monel. Mais tu songeras que j'ai tous les autres noms. Et je suis celle-ci et celle-là et celle qui n'a pas de nom. Et Monel dit encore, je te parlerai des dieux. Laisse mourir les anciens dieux, ne reste pas assis semblable à une pleureuse auprès de leur tombe, car les anciens dieux s'envolent de leur sépulcre, et ne protège point les jeunes dieux en les enroulant de bandelettes, que tout dieu s'envole, sitôt créé, que toute création périsse, sitôt créée, que l'ancien dieu offre sa création au jeune dieu afin qu'elle soit broyée par lui, que tout dieu soit Dieu du moment. Et Monel dit encore, je te parlerai des moments. Regarde toute chose sous l'aspect du moment. Laisse aller ton moi au gré du moment. Pense dans le moment. Toute pensée qui dure est contradiction. Et Monel dit encore, je te parlerai de la vie et de la mort. Les moments sont semblables à des bâtons mi-partie blanc et noir. N'arrange point ta vie au moyen de dessins faits avec les moitiés blanches, car tu trouveras ensuite les dessins avec les moitiés noires. Que chaque noirceur soit traversée par l'attente de la blancheur future. Ne dis pas « je vis maintenant, je mourrai demain ». Ne divise pas la réalité entre la vie et la mort. Dis « maintenant, je vis et je meurs ». Épuise à chaque moment la totalité positive et négative des choses. La rose d'automne dure une saison. Chaque matin elle s'ouvre, tous les soirs elle se ferme. Sois semblable aux roses. Offre tes feuilles à l'arrachement des voluptés, au piétinement des douleurs. Et Monel dit encore, je te parlerai des choses mortes. Brûle soigneusement les morts et répands leurs cendres aux quatre vents du ciel. Brûle soigneusement les actions passées et écrase les cendres, car le phénix qui en renaîtrait serait le même. Ne joue pas avec les morts, et ne caresse point leur visage. ne ris pas d'eux et ne pleure pas sur eux. Oublie-les, aie de la méfiance pour tous les cadavres. N'embrasse pas les morts, car ils étouffent les vivants.
C'est un extrait du livre de Monel, de Marcel Schwob, où il est extraordinairement question de dieux de passage qui acceptent de laisser leur place, qui est suffisamment rare pour être souligné. Quel est votre rapport avec ce texte ou avec cet auteur ?
Bah ça, c'est le livre de chevet, on va dire, hein, comme il en faut bien. Alors, je ne sais pas comment j'ai découvert ce texte du tout. Je ne connaissais pas spécialement Marcel Schwob. Je suis tombé dessus, voilà, je pense, où il m'est tombé dessus, le livre. Donc, Monel, c'est une petite prostituée. Le livre est le récit de toutes les petites sœurs de Monel. C'est toute une série de portraits. Et au début du livre, il y a ces espèces de paroles de Monel qui sont une forme de commandement, je ne sais pas. Et c'est, vous savez, ces textes où dès qu'il y a quelque chose qui est trop troublant dans la vie, on y va.
Et puis
on va sniffer un coup, je ne sais pas comment dire. Et ça apaise un certain nombre de choses, ça recadre. Et c'est étonnant parce que j'ai lu d'autres choses de Schwob et que j'ai trouvé intéressantes, mais qui ne m'ont pas autant bouleversé que ce petit bouquin-là. Parce que là aussi, là, c'est une parole très épurée. Je ne suis pas très commandement, hein. Je n'aime pas forcément les... je ne suis pas un moraliste ni quoi que ce soit. Donc, ces espèces d'injonctions comme ça de Monel, fais ci, ne fais pas ça, elles sont tournées d'une telle manière qu'elles sont extrêmement douces comme du miel.
Mais aussi parce qu'elles déjouent leur propre autorité. Mmh. C'est-à-dire que ce sont des injonctions qui disent en même temps, surtout, ne fais pas confiance à ce qui est de l'ordre de l'injonction.
Oui. Et elles érigent tout instant en contradiction, en paradoxe, en contrepoint. Elles rendent les choses à la fois extrêmement claires et aussi comme une eau brouillée. Donc c'est en ça que c'est riche. Elles ne laissent pas de certitude et en même temps, elles ouvrent des portes et des pistes, des possibles. C'est un livre très précieux. C'est sans doute le livre que j'offre le plus au monde. Déjà, j'aime beaucoup, je donne mes livres, je les donne tout le temps. Je ne peux pas m'en empêcher. Dès que j'ai eu quelque chose, je le donne aux gens que j'aime pour partager. C'est très compulsif chez moi. Mais alors celui-là, j'ai dû faire la fortune des éditeurs parce que je l'ai donné par Ben.
Quelle musique vous voulez associer à ce texte ?
Ben, ça pourrait être « Danse avec moi » de Mesparo.
De toi, si
Vous pouvez réécouter toute la bibliothèque de Stanislas Nordet sur franceculture.fr et comme il va pleuvoir, vous pouvez même l'écouter deux fois car elle est pleine de vie. La semaine prochaine, c'est la comédienne Delphine Rich qui déballe sa bibliothèque et il s'agira du dernier déballage en bonne et due forme. Ce déballage de bibliothèque se fera au micro de Romain de Bec de Lièvre. L'année prochaine, on partira vers de nouvelles aventures. On y entendra des extraits de Edmé Renaudin, Marlène Haushofer, Delphine de Vigan, Miguel de Cervantes et Bruce Machard. Caractère trempé, cheveux dégoulinants, beauté du collage de peau sur le cou. Découpage de lumière sur l'anorak. Sa chemise en dessous est lilas. Il a l'odeur des fleurs après la pluie, une aubaine pour celui ou celle qui embrasse. Il est posté devant le mur est sur un train, donc tout bouge tout le temps, c'est cela qu'il faut dire. Il attrape un chien noir et ratatiné, un petit bâtard un peu raté qui faisait les poubelles. Il lui coiffe le dessus du crâne en souriant et examine ses babines, lui roule une grande pelle d'amour. Le clébard retient ses lèvres, ses larmes, ses lèvres, ses larmes. Il pose le chien sur le rebord du mur, le regarde et dit « Si tu ne bouges pas, je vais te peindre, petit animal. Et en deux secondes, tu rejoins mon mur des miracles. » Le chien se pose, hyper stable, hyper content, sur le rebord du mur, une patte sous la tête, Olympia sur un lit, et devient pure merveille, drôle avec ça. Lui, lumière découpée sur l'anorak, tellement beau collage de peau sur le cou, absolument embrassable de tous côtés, il bombe un chien sur un mur qui est sur un train, c'est-à-dire que tout bouge. Le mur, lui, et le chien qui veut que la vie recommence depuis le début avec cette hauteur de beauté, roule à vitesse raisonnable, coupant en deux une toundra, pareille à une piscine vide en carrelage orange. C'est que la vie a des recoins de toute beauté.
Try to bite your dance, so don't bite your eyes. It's not right, y'all. What the hell? Hop, sugar, dippity, graffiti is what we're going into. Graffiti is something that's kind of hard to explain, and it's just running around, spray painting your name. It's more than that if you want to be the best. You gotta take it to the yard, try to pass the test. Now the test you see is the work you do. Another whole car design on the tool when it's running through a New York Zoo. Influential people see just what you do. It's not hard to see, it don't take much time. You start off with the deaf outline. Outline's up, you begin. You grab your paint and lay down your feeling. Your feeling's done, you add some design. You hook them all up, no shaky lines. Now you're right on time and you're almost through. One thing left and you know what to do. Grab a can of black, turn it to shit. You best not whack up or make a mistake. When the piece is done, you know it's time to break. 5 in the morning, you shouldn't be awake. Graffiti, rock the house. Yes, New York City, rock, shock the house. Spray paint the train, ain't all for me. There's a lot of things in life that I wanna see. So I got myself a studio. A few weeks' time, I really started to go. The idea was to let the people know. Graffiti artists guaranteed to dog the whole show. The boys are bad and they're down with me. Graffiti, yo, what you got for me? Zephyr, Abdul, Dante, and Lee. Ed Koch, rock the house. All right. I was chilling hard with a friend of mine. I took a trip to Europe, had to leave him behind. We call a 5-5 Freddy and Freddy B. He rocks the mic into the highest degree. Freddy Love, I threw you down, you see. Because you're both rock shocking, making history. I'm the F-U-T and the U-R-A, shocking my rhymes to the break of day. Check me out, and you don't stop. Rock the rhythm that makes your finger pop. Pop, 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 pop. Hey, graffiti, thanks a lot. Graffiti, you rock the house. Yes, graffiti, rock, shock, rock, turn it out. Charlie A, rock the house. I say whatever you are, you rock, shock the house. And Patty A, rock the house. Wherever you are, keep cooling out. And Maggie J, you shock the house. And number one lover of the century, that's why I'm here for you. Hold the mic, I know my little dog, this is what you like. Graffiti, you rock the house, yes, graffiti. A New York City, you're rocking the world. When the tourists come, we got them in a twirl. Cause the art we do, a visualize, an abstract image that we all despise. Graffiti, you rock the house, yes, graffiti. Rock, shock, rock, turn it out. And all right, rock the house, all right, you're mighty. All right, you're mighty, we know it's out of sight. You know it's obvious to me, you see. Graffiti's not accepted by society. Well, alright. Neither was Van Gogh. London, rock the house. I say whatever you are, you rock, shock the house. And Tokyo, rock the house. You know you're on the go. You rock, shock the house. And Fed Purple, rock the house. Fat Cats, hey, shock the house. Is the Wiz, rock the house. I say whatever it is, you rock, shock the house. Now, Lady Pink, rock the house. What did you think? I leave you out. And Don L, rock the house. Tessa 2, you rock, shock. All right, got my man Mick, cut the mix, no tricks. Wild style, rock the house, I say. A wild style, what it be about? And all right, give me what you got. KV, you're rocking the house, and SC3, shock, shock the house. Keith H, you're rocking the house, and the downtown scene, rock, shock the house now. Same O, rock the house, all the people know, you rock, shock the house. Krylon, rock the house, and the devil, shock the house now. I'm the F-U-T and U-R-A, rocks and soccer my rhymes to the break of day. Check me out, and you don't stop. Graffiti's what it be about. Young ladies, dog your spot. All the fly girls in the house, cooling out, checking the fellas out. Gerb, rock the house, I said Gerb's the word, you rock shock in the house. To the class, you're rocking the house. Say thanks a lot, shock, shock the house. F-U-T-U-R-A, hey. Future is what I spray. A New York City, rock the house and graffiti. Rock, shock the house now.
Pour ce Polaroid, nous écoutions un morceau dont je vous laisse désannoncer le titre et l'interprète, Alex One.
Alors, j'ai oublié le titre. Mais
The
en fait...
Further Adventures of Futura 2000.
En plus, je n'aurais pas réussi à le prononcer comme ça. Mais donc, du coup, les clashs avec Futura 2000, peintre, plutôt reconnu du milieu graffiti. Je ne connais pas la date non plus, mais les années 80, je pense, à l'époque où ils peignaient pendant leur tournée, en fait.
On reviendra sur tout ça et sur le reste de vos choix dans un instant. Mercredi dernier a été remis le Grand Prix de poésie de la RATP. Plus de 6000 personnes ont cette année envoyé leurs poèmes entre le 17 mars et le 13 avril sur ratp.fr. Et le jury qui a été présidé par Stéphane De Groot a choisi de récompenser 12 poètes amateurs répartis entre des catégories adultes et enfants. Ces poèmes seront affichés cet été sur les réseaux RATP si vous levez le nez dans les rames, sur les quais et dans les bus, espérant que ça vous donnera envie de lire et d'écrire. Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture. C'est le cinquième et dernier moment d'une semaine durant laquelle nous avons regardé les murs, longé les murs et écouté les murs. Littérature, graphisme, histoire de l'espace public, géopolitique des frontières, voyages qui menèrent deux jeunes hommes à Vladivostok et près d'eux-mêmes, ainsi que près de villageois ébahis devant la beauté des peintures de Zooproject. Voilà ce que nous avons mobilisé depuis lundi pour parler des murs sous toutes leurs coutures. Le vendredi, la coutume est simple, nous confions à quelqu'un le soin de se décliner, de décliner le thème qui nous a occupés en 5 morceaux musicaux. À la fin des années 80, quelques professeurs d'art plastique ont la bonne idée de faire tourner dans leur classe des livres qui montrent la prolifération de tags colorés sur les murs outre-Atlantique. Et ça donne des idées, ça accroche des ailes au basket et ça creuse l'appétit pour la peinture en extérieur. Alexwan Dizak, on peut dire que votre activité artistique a commencé dans la rue. Vous taguiez Oedipe à l'époque. C'est un espace que vous n'avez pas complètement quitté, mais que vous avez complété ces dernières années par d'autres espaces d'exposition comme les musées et les galeries. C'est à vous que nous offrons carte blanche pour parler des murs en 5 morceaux musicaux. On vient d'en entendre un premier. Bonjour et bienvenue.
Merci.
Puisqu'on parle des débuts, quel est le premier mur sur lequel vous taguez ou le premier mur sur lequel vous peignez? Est-ce que vous vous en souvenez?
Je m'en souviens pas vraiment. Mais c'est plutôt une époque où je me souviens très bien avoir commencé vraiment à écrire des tags dans les toilettes du collège. Et très vite, je suis arrivé au métro. Et donc, du coup, c'était plus une...
Quelle ville était-ce?
C'est comment?
Quelle ville?
Paris, en fait. La région parisienne. Donc, j'étais vraiment en banlieue parisienne. Et du coup, c'était une... normal, enfin quelque part, voilà, c'était une évidence.
C'était une évidence de taguer les murs des toilettes et de taguer ensuite les murs du métro. Est-ce que d'autres murs un peu plus à l'air libre vous ont assez vite appelé?
Très vite, il m'a fallu quelques années à regarder d'abord les murs qu'ils se faisaient. En fait, c'était ça pour moi, c'est toujours venu de l'envie de voir des choses. Et du coup, très vite, je m'y suis mis en fait. Mais c'est d'abord en voyant ce que faisaient les autres.
Qu'est-ce qu'on voyait à l'époque à Paris? On est là à la fin des années 80, début des années 90, quand on est un plutôt tout jeune homme comme vous quand même, banlieue parisienne et Paris. Qu'est-ce qui s'inscrivait? Qu'est-ce qui était au mur? Qu'est-ce qui était visible?
C'est compliqué à dire. En fait, il y avait beaucoup de terrains vagues dans Paris. Et c'est vrai que...
À l'intérieur même de Paris.
Voilà, intramuros. Même s'il y en avait un peu en banlieue, mais ceux qui étaient peut-être plus recherchés, c'était ceux où, du coup, j'avais l'impression de monter à la capitale. J'habitais à 10 km de Paris, mais c'était déjà faire un acte de monter. Du coup, je montais en métro en faisant quelques tags. Donc, voilà, finalement, tout était bien, bien huilé.
Et qu'est-ce que vous y voyez dans ces murs-là au départ, c'est-à-dire avant vous-même de prendre les bombes, qu'est-ce qui était visible?
Alors, qu'est-ce que j'y voyais en fait? Je ne sais pas. J'y voyais quelque chose qui m'attirait, des couleurs, des formes, des lettres bien sûr. En fait, les noms des personnes qui s'inventaient des pseudos. Voilà, ça reste très confus. Pour moi, à cette époque-là, je ne sais pas ce que c'est que l'art, je ne sais pas ce que c'est que... Je sais qu'on dessine. Et du coup, j'en vois sur les murs. Mais j'assimile pas ça non plus à ce qui se passe dans les musées. C'est quelque chose qui me parle, en fait. Ben, d'ailleurs, ça commence tout le long du chemin pour y aller. On en voit par déjà des tags, donc juste de l'écriture, et puis des choses un peu plus élaborées, juste en lettres, sur le chemin, le long des voies...
Des voies ferrées, c'est-à-dire voilà. Que par exemple, qui prend ou qui a pris dans sa vie des trains de banlieue pour rejoindre en effet la capitale, ben, le long des voies ferrées, il y a énormément de graffitis plus ou moins colorés, plus ou moins illustratifs, plus ou moins lettrés, mais qui sont là et qui sont évidemment régulièrement remplacés depuis des années et des années. Exactement. À partir de quand ça commence à prendre un sens au point où vous aussi, vous choisissez un pseudonyme à écrire sur les murs ?
J'écris très vite sur les murs, c'est assez facile. Et puis c'est une addiction qui est assez... comme toute addiction, quoi. Ça prend et c'est un peu irraisonnable. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas... même si on peut y trouver quelques raisons. Mais c'est vrai que je n'ai pas été de ceux qui étaient à absolument écrire son nom pour exister. Je pense que j'en ai eu besoin aussi. Mais ce n'était pas uniquement. Finalement, je me suis laissé emporter par la calligraphie. Voilà.
Qu'est-ce que vous choisissez d'écrire à ce moment-là comme nom ?
Eh bien, à cette époque-là, j'écris des noms, j'en change toutes les semaines. C'est vraiment... je me laisse emporter par la typo, j'écris des phrases.
Le plaisir de la lettre au départ.
Oui. En fait, c'est... par exemple, dans le métro, je disais, d'écrire dans le métro, finalement, à la fin, ça devient chez soi. Je passais ma vie dans le métro et... Et il y a beaucoup de parties très lisses, très blanches. En même temps, on est dans le métro, ça bouge beaucoup. Donc il y a deux choses. C'est le plaisir de l'encre qui file sur cette matière parfaite pour ça. Mais en même temps, qui file tellement vite que le moindre à-coup, et Dieu sait qu'il y a des à-coups dans le métro, devient compliqué. Donc ça devient un peu, au début, une espèce de... c'est un challenge. Parce que le premier tag, en tout cas, était, à mon avis, très dur à lire.
Est-ce que vous changez pour les bombes assez rapidement ? Et est-ce que ça devient un matériel facilement apprivoisable, ces bombes de peinture colorée ?
Alors c'est drôle, parce qu'en fait, j'ai commencé vraiment à écrire donc, mon nom, à faire des tags. Et pour moi, ça reste le marqueur. Parce qu'il y a vraiment une histoire d'encre, de fluidité, d'intensité de l'encre. Et puis aussi, le geste est beaucoup plus souple. Alors que la bombe, en fait, ne touchant pas le support, on n'a pas cette... y a quelque chose, quoi, de toucher le support en inscrivant. J'avoue que la bombe de peinture est arrivée beaucoup plus tard. En plus, c'était plus dur de se procurer
les bombes
de peinture.
Puis c'était plus cher.
Oui, après, on se débrouille toujours, malheureusement. Ou heureusement. mais du coup, voilà, effectivement, c'était beaucoup plus dur. Et puis pour arriver à faire une peinture, il faut avoir plusieurs bombes de peinture. Un marqueur, on en a un et on peut faire ce qu'on veut.
Est-ce que les animaux, les figures d'animaux assez stylisées que vous appelez pingouins, mais qui ne ressemblent pas toujours à des pingouins d'ailleurs, interviennent assez rapidement dans les dessins que vous faites au mur ?
Plus ou moins. En fait, j'ai du mal à me rappeler. À cette époque-là, c'était vraiment la lettre. Là, c'est la découverte vraiment du graffiti. Et je m'inscrivais dans les codes du graffiti, qui sont de faire une lettre, de faire un contour, de faire... voilà. Il y a des règles établies depuis déjà quelques dizaines d'années que je suis à la lettre.
There's a backseat lover that's always under.
deuxième choix de cette carte blanche musicale Alex Swan d'Isaac. Alors ici, on rejoint presque le premier choix qui faisait l'alliance entre Futura 2000 et les Clash, puisque c'est une alliance là entre Run DMC et Aerosmith. Est-ce que c'est la musique que vous avez dans les oreilles pendant cette première période qui va des premiers marqueurs surface lisse dans le métro et lettrage jusqu'aux premières bombes, aux premiers aérosols? C'est à peu près cette musique-là que vous écoutez?
C'est exactement Run DMC.
C'est après, exactement Run DMC.
Enfin, Run DMC et tous les groupes qu'on pouvait trouver à l'époque. Public Enemy, il n'y en a pas tant que ça finalement. Ce qui est intéressant dans celui-là, c'est Aerosmith, qui à l'époque je ne connaissais pas du tout parce que j'ai jamais écouté de rock. Quelqu'un qui fait des graffitis, écouter du hip-hop et pas du rock. Enfin voilà, c'est drôle en fait de me rendre compte qu'avec ça, ça a peut-être été mon ouverture musicale qui se limitait à quelques groupes de rap américain parce qu'on arrivait à trouver jusqu'ici, quoi.
Mais justement, quand vous dites ce qu'on arrivait à trouver, c'est-à-dire qu'encore pour écouter Public Enemy ou pour écouter Run DMC, il faut être sensibilisé à cette culture hip-hop, il faut être dans les endroits où circulent quand même ces disques-là, ça passe pas nécessairement à la radio, donc il faut quand même avoir un goût et un rapprochement avec cette culture. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des règles établies dans le graffiti, notamment établies par le graffiti américain que vous suiviez à la lettre. Comment est-ce que vous étiez sensibilisé à toute cette culture-là?
Alors là, c'est à l'époque, on s'enregistrait des cassettes. Et là, c'est même mon prof de dessin qui mettait cette musique-là pendant les cours de dessin et qui m'enregistrait mes premières cassettes de Run DMC, de Public Enemy. Alors ça, c'est après j'ai essayé d'en trouver. Et puis à l'époque, il y avait sur Radio Nova, il y avait une émission de hip-hop. Et du coup, c'est comme ça, voilà. C'était les seules infos qu'on avait. Et évidemment, comme on cherchait absolument les choses là-dessus, on finissait par les trouver.
Quand vous dites que vous suiviez de très près les règles établies par le graffiti américain, c'est-à-dire que vous aviez des images, vous regardiez la façon dont... On a parlé très très brièvement tout à l'heure de Futura 2000, qui était un peintre, et graffiti. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des règles que vous pourriez, dont vous pourriez vous souvenir aujourd'hui?
Oui, mais qui sont toujours...
Qui sont toujours des règles à l'œuvre.
Ça fait partie des choses où on se rend même... Enfin, d'ailleurs, à l'époque, on ne se rendait même pas compte que c'était des règles qui nous enfermaient, au contraire. En fait, c'était...
Par exemple, je ne sais pas, quand on a l'âge que vous avez à ce moment-là, c'est-à-dire, on pourrait dire quoi, aux alentours de 15-16 ans désormais, là, on a passé la période du collège, premières années de lycée. Quelles sont les règles avec lesquelles vous peignez à la fois sur les murs, avec lesquelles vous remplissez, j'imagine, aussi quelques cahiers de cours et quelques...
Ben en fait, c'est d'écrire son nom, d'avoir un contour, d'y mettre un ombrage.
C'est quoi un ombrage?
Alors un ombrage, c'est... comme si en fait la lettre avait une ombre, du coup on va mettre...
Ah, un ombrage, d'accord, ah oui, voilà. Ok.
Et puis, alors par exemple, vraiment un highlight, ce qu'on appelle ça, c'est juste un trait blanc qui vient se mettre à l'arête de la lettre pour lui donner en fait...
De la lumière.
De la lumière. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est une règle que j'ai toujours jamais tenue.
Donc ça, ce sont les trois piliers de la façon dont vous écrivez vos noms, puisque vous en aviez choisi plus ou moins.
Plus ou moins, après, c'est dur à édicter. Mais en même temps, les autres règles aussi, c'est que ça ressemble à du graffiti. Ça, c'est un peu plus impalpable et c'est par initié qu'on se rend compte de ça. Finalement, plus tard, j'ai compris aussi que, par exemple, il y a beaucoup de règles qui ont été finalement écrites par des graffeurs eux-mêmes qui devaient avoir le même âge que moi et qui finalement, en fait, en copiant au fur et à mesure leur peinture, ça devenait, c'est comme ça qu'il faut que ça fasse un graffiti. Par exemple, je me suis rendu compte de ça avec Sin, qui maintenant était venu habiter à Paris il y a quelques années, et qui donc faisait des trains sublimes dans les années 80. Du coup, je me suis rendu compte que la plupart des lettres et il y a plein de petites phases, comme on dit, dans les lettres, qui sont simplement que lui un jour les a grattées et finalement elles sont restées et finalement c'est devenu le style graffiti, quoi.
Quand vous parlez des trains de Sine, est-ce que le mur reste la surface idéale pour faire du graffiti ou est-ce que vous découvrez petit à petit d'autres supports qui sont tout aussi excitants, qui sont tout autant une façon de mettre en valeur votre peinture ?
Ah là là, c'est compliqué ça, parce qu'en fait, tous les supports sont finalement assez étonnant, sympathique ou quoi. Justement, c'est ça la chance qu'on a avec la bombe, c'est que pour moi, l'essentiel, c'est que ça soit, j'allais dire, le plus grand possible. Mais un petit peu.
C'est
en
ça,
fait, raisonnablement grand.
Il faut que la surface peinte soit très grande.
C'est mieux.
Quand vous passez le cap, là on fait un saut dans le temps quitte à revenir en arrière après, mais quand vous passez le cap d'expositions qui vont avoir lieu là dans des murs, de musées, je pense au Centre Pompidou il y a quelques années, ou dans des galeries, est-ce que le support change ? Est-ce que vous peignez directement au mur ? Est-ce que dans ces cas-là vous peignez sur toile ? Et auquel cas, est-ce que c'est une question intéressante que de savoir ce que ça change ou pas ?
Alors ça change énormément de choses. En fait, il y a une vraie scission dans mon travail à partir du moment où je rentre en atelier pour travailler des toiles. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que je ne peux plus faire ce que je fais, parce que sur mur, on est dans une rapidité d'exécution. On a plein de...
Contraintes.
De contraintes, voilà, exactement. Donc là, après la peinture, on n'a plus de contraintes, enfin, au moins juste celles qu'on veut bien se mettre. Et puis, on va dire que... L'œuvre finale va être faite pour être vue longtemps, de près ou quoi, donc totalement différemment, parce que très souvent les graffitis pris en photo, ça annule beaucoup de petits défauts. Et là, à la peinture, mais donc du coup, quand je suis arrivé dans mon atelier, je suis plus graffeur, je deviens peintre, tout simplement.
Quand hier, on parlait du travail de Zoo Project et Antoine Page, qui était là pour en parler, disait à quel point ce qui était important pour Bilal Berini, c'était ce que ça pouvait déclencher comme parole, ce que ça pouvait déclencher comme situation de lecture, d'observation, de rapport avec les passants dans la rue, et que c'était extrêmement important le rapport humain qui se crée par le surgissement d'une image, en fait, dans un espace urbain qui n'est pas fait, a priori, pour les accueillir. Est-ce que, du coup, ça change nécessairement de produire une œuvre dans la rue dont on sait qu'elle sera regardée de cette manière-là, ou de produire une œuvre à destination d'une galerie ou d'un musée dont on sait que, bah, par exemple, les gens viendront pour voir l'œuvre, auront tout le temps de s'attarder devant, etc. Est-ce que ça change quelque chose dans le moment et dans la façon dont vous l'envisagez, cette œuvre ?
Alors en fait, je suis un peu de plus vieille école, qui fait que déjà, c'était simplement de m'exprimer, même dans la rue. Donc du coup, à aucun moment, j'ai pensé à
ces... À la réception, ah oui.
Voilà. Et d'ailleurs, toujours, je sais qu'elle est là et je suis content qu'elle existe et tout, mais j'y pense pas beaucoup. En fait, au moment où je le fais, je fais « Ah, c'est super !» Mais ça fait pas partie de mon travail en amont, j'ai envie de... Puis bon, en plus, moi, je travaille de façon très impulsive, on va dire, très instinctive. Du coup, y a rien qui est vraiment préparé, tout est... C'est plutôt une rencontre avec le support, souvent.
C'est un support qui va vous faire envie, c'est un mur qui va appeler, ouais, le bonheur ou la nécessité de s'exprimer sur ce mur-là.
Clairement.
Est-ce que vous faites encore aujourd'hui des murs ?
Ouais, j'en ai fait un ce week-end. Enfin, même hier encore.
Mais librement, pas désofficiellement commandés par
ah ouais,
des personnes.
Complètement, d'ailleurs. Nous sommes fait repasser par des affiches en moins d'une journée.
À l'ancienne.
Oui.
Yo, sors ta zequin, ta tronche.
Debout les pédés, on va faire un tour.
Eh ouais, ma gueule. Je fais monter l'adrénaline dans une odeur d'encre indélébile.
Dans une odeur d'encre indélébile.
Retourner les murs de ma ville, une idée qui m'obnubile.
Une idée qui m'obnubile.
Je fais monter l'adrénaline, ouais, dans une odeur d'encre indélébile. Retourner les murs de ma ville, une idée qui m'obnubile. Ouais. L'argent n'est pas mon mobile,
non,
mais j'ai quand même les mains sales. Ouais. Et quand les filles me demandent pourquoi, je suis artiste pictural. Mon truc factural, le matin en sortant, tu te remémores ton camtar quand il était tout blanc. Mon truc factural, quand t'as payé 8 francs et que tu choisis le strapon, t'inconviens de taguer maintenant. Une bad tune sur mes esgourdes, mais je presse vite, je me presse vite. 22, v'là les Schmitt. Un dernier tag speed, puis je m'arrache scred. Remonte sur mon bolide, puis continue mon raid. Je t'emmène en balade au programme Buntlack et Paran. Tag à l'arraché cavale si les colbocs nous crament. Nos bombes ne sont pas celles que l'Amérique fit pleuvoir sur Bagdad. Juste armé d'autant cadavérique qu'affiche nos villes malades. Je vais monter l'adrénaline dans une odeur d'encre indélébile. débile. Retourner les murs de ma ville, une idée qui m'obnubile. La bille de métal, un charlet.
Alex Wan Misa, qu'on entend ici un extrait d'Adrénaline de Soclac. Est-ce qu'il faut dire Soclac ou Soclac El Gato? Soclac.
Eh bien, je ne sais pas, mais Soclac, je crois.
Bon, on va dire Soclac. Le voilà. Morceau s'appelle Adrénaline. L'album s'appelle 1977 et il date de 2006. On saute dans le 21e siècle, on laisse le rap américain des années 80-90 pour parler de quelqu'un qui peint encore et qui rappe encore. Il est question dans ce morceau-là de retourner les murs d'une ville, de quelque chose qui omnubile. Ça fait directement référence à l'addiction dont vous parlez, qui émerge à 13, 14, 15 ans, peut-être même avant. Et du fait que mon truc fait que tu râles, il y a ce rapport à l'illégalité, il y a ce rapport au fait que un camion, c'est pas nécessairement fait pour être peint, le mur d'un métro, c'est pas nécessairement fait pour être peint. Est-ce que ce rapport-là, un rapport au risque aussi, est quelque chose qui entre clairement dans votre pratique?
Oui. Alors après, mais c'est vrai que toujours, malgré, même par rapport à ça, je me rends compte qu'en tant que peintre, j'ai tout ce que j'avais à ce moment-là du côté illégal. Et même quand je vais dans une galerie ou un musée, c'est en train de changer, mais je suis toujours pas forcément bienvenu. Enfin,
c'est-à-dire,
j'exagère un petit peu en disant ça, mais quand même. Disons que par exemple, pour la peinture, je n'ai pas fait d'école. Finalement, mon école, c'est la rue. Alors c'est un peu facile, mais c'est pas faux. Et du coup, comment dire, du coup, je ne suis pas forcément bienvenu, même dans le monde de l'art. Donc,
sachant que vos toiles sont achetées, sachant qu'elles sont exposées, il y a quelque chose qui, dans la, finalement, l'origine de cette peinture-là, ou l'origine de votre travail, le fait qu'il prenne ses racines dans quelque chose qui soit totalement libertaire, qui soit pour part illégal, reste quelque chose qui, même une fois que vous avez passé le mur de la galerie, fait encore parler.
Oui. Oui, je me rends compte. Alors, moi, de toute façon, depuis que j'ai commencé, même dans la rue, en sachant que c'était pas bien, entre guillemets, je me suis toujours... j'ai toujours laissé ce débat de côté. Mais c'est vrai que régulièrement, et revient à moi, souvent, je suis étonné. Pas toujours aux endroits où j'imagine. En fait, ça reste quand même quelque chose d'étonnant pour les gens. Enfin, en fait, comment... de dessiner sur les murs avec cette liberté, ça gêne encore, ou ça gêne des gens, tout simplement.
Est-ce que ça fait partie de votre fascination ou de l'excitation qu'il y a à le faire? Est-ce que la part de dissidence que ça contient nécessairement, c'est-à-dire faire quelque chose d'illégal, le faire avec liberté qui plus est, fait partie de la joie, du plaisir, de l'excitation qu'il y a à faire ça?
Alors bon, je me suis un petit peu... pris de l'âge et du coup moins, mais ça reste toujours présent.
Par quoi est-ce qu'elle est remplacée quand vous peignez très sagement une toile pour une très sage galerie? C'est remplacé par quoi?
Du plaisir personnel.
Une autre forme?
Oui. Non, oui. C'est difficile à expliquer, en fait. C'est que finalement, même que je me sois retrouvé à faire ça, il y a, j'ai envie de dire, une quinzaine d'années, je ne savais même pas que ça existait de faire...
D'avoir un métier comme peintre.
Voilà. Donc, je ne sais pas. C'est quelque chose qui m'arrive de plus profond de moi.
Étrange sentiment d'appartenance à un monde varié, mais dans lequel on me refuse la diversité. Nous sommes des clichés enfermés dans une trop étroite identité, mais je ne peux plus m'enfermer dans celui qu'on me désigne. Aucune définition réductrice ne m'agrippe. Je ne peux m'empêcher d'être l'un et le multi. J'ai le sens du rythme et la mélodie linéaire, la voix aiguë mais le propos grave et austère. Adolescence française, regard russe et langue algérienne, la pensée universelle et l'ambition planétaire. Rempli de compassion mais vide de condescendance, train de vie brouillon et flou mais brodé d'ambition claire. Identité effritée qui vole au vent dans les ronces, mes techs présents par l'esprit mais dont on ne voit que la chair. Pourtant je porte le centre, les périphéries, la phrase et la réplique, la rime lourde, le flow léger, difficile, métrique. Piteux, précaire et artiste, j'ai le statut bas et fixe, mais les tripes de faire la zig d'élite que mon ego mérite. Alors dans ce monde varié, offert en son étrange ensemble, je ne peux me résigner à
n'être qu'un. Et ce que ça arrange de nous mettre dans des cases et des franges. Mon exemple brise leurs clichés, dérange et miette leur pain quotidien. On se veut unique mais on devient viande de plus en plus tendre. Rentrant dans des cases telles des offrandes à la loi marchande. Et même si on tente de se démarquer, on alimente un nouveau cliché qu'on vante. Et au final on fait que ça on représente. Alors être valable se confond avec vendable, récupérable, humain interchangeable et sur le tard. S'exécuter dans un système qui vend ses citoyens comme son âme. À force d'être assimilable, on finira en code barre. Individu consommable mis dans des cases inflexibles. Et si je brise les chaînes invisibles des identités hybrides, la complexité sera ma résistance, mon fond de commerce. Cela fera de moi un mauvais commercial mais un homme libre. Non aligné, je me faufile dans les strates et de mon poids fait tourbillonner diversité sur les visages hagard. Nos règles sont telles qu'en tant que un, je m'incline devant toi. Mais ça étendra mon multiple loin au-dessus de ton regard. Appelle ça du rap, du slam, du punk, ça ne me regarde plus. Quand tu mets mon pied dans une case, sais-tu où l'autre se situe. Si loin que c'est ça, être un géant, commercialement c'est gênant. Perdre son rendement dans mes bas-fonds sans issue. Et au fond du trip, j'ai atteint ton esprit là où ça rip. Le système t'attendait assimilé et réduit comme une icône qui s'agite. Mais tu retrouves les paradoxes, les contrastes et tu flippes dans ce face sa face entre l'un et le multiple.
Alex Wayne d'Isaac, quatrième choix de cette carte blanche musicale qui a pour vocation de faire livrer votre propre vision du mur en 5 morceaux. Ici, on entend Rossé avec un morceau qui s'appelle L'un et le multiple avec Pozzi. Et c'est tiré de l'album L'identité en crescendo paru en 2006. Dans ce morceau, entre autres, et à l'intérieur de ce très beau texte, Rossé dit « Quand tu mets ton pied dans une case, sais-tu où l'autre se situe ?» Est-ce que c'est l'une des questions que vous vous posez lorsque vous posez un pied dans les fameuses galeries dont on parlait à l'instant ?
Clairement.
Clairement.
On est vraiment là-dedans. C'est pour ça que vraiment, ce texte pourrait le mettre à la peinture, comme lui le met sur le rap.
C'est-à-dire qu'il dit « Voilà, appelle ça comme tu veux, moi je suis partout ailleurs finalement. »
Exactement, et puis surtout, je fais parce que je ressens et pas parce qu'on veut que je sois. Exactement, une case bien particulière. Et
Comment est-ce que ça a évolué cette peinture, puisque on a parlé jusqu'à maintenant des lettres, on a parlé jusqu'à maintenant des lettrages, on a parlé des murs et des supports, on a peu parlé de ce qui constitue aujourd'hui l'essentiel de votre peinture, c'est-à-dire un travail extrêmement pointure sur la couleur, sur le geste de la couleur et la façon dont elle occupe l'espace et dont elle dialogue entre elles, et une forme de bestiaire dont vous usez assez régulièrement. À partir de quand elle prend ce vocabulaire-là que vous utilisez en ce moment ?
Je ne sais pas. En fait, tout est venu justement à partir du moment où je me suis défait un peu de ces fameuses règles dont on parlait.
Du graffiti.
Voilà. Où finalement, j'ai continué à peindre sur les murs, mais de façon très personnelle, en fait. Enfin, voilà. Très vite, j'ai arrêté de suivre vraiment les règles en les connaissant. Donc, et c'est aussi pour ça qu'à un moment, je sais que c'est plus du graffiti du tout, et que c'est pour ça, finalement, j'ai glissé vers l'atelier. C'était ce qui était le plus simple ou le plus évident, en fait.
Est-ce que c'était enfermant ? Est-ce que ça vous a paru enfermant à un moment donné, ce monde du graffiti qui suppose certaines règles, qui suppose certaines façons de procéder ?
Dès le début.
Dès le début ?
Non, dès le début. à la découverte était sublime, parce que c'était quelque chose que je ne connaissais pas, pardon. Mais après, très vite, dès qu'on veut essayer de faire quelque chose, comme dans tout petit milieu, en fait, il y a des chapelles et les gens préfèrent mettre des règles pour, parce qu'ils ont peur de ne plus tenir la chose. Du coup, moi, j'ai découvert le graffiti, mais ça m'a fait découvrir plein d'autres choses, en fait.
Comme quoi ?
Tout. J'ai envie de... enfin, c'est en... pour reprendre la chose de départ, c'est en... j'ai pris le métro pour sortir de chez moi, aller sur Paris, voir ce qui s'y passait. Il s'y passait plein de choses.
Il y avait des musées, par exemple ? Des bibliothèques ?
Par exemple. Alors, c'est pas où je suis allé tout de suite. Mais non, mais effectivement. Mais surtout, avec le graffiti, il y a un truc, c'est que je me suis retrouvé dans tous les milieux sociaux différents. Du coup, voilà, j'ai vu une palette de gens, d'univers. En fait, et moi, j'étais un espèce d'électron libre qui, grâce peut-être au graffiti, ça me permettait de faire pas mal de rencontres.
Ce qu'on disait tout à l'heure en questionnant le caractère dissident et libertaire qui pouvait disparaître dès lors qu'on peignait des toiles pour les exposer dans une galerie et qu'on ne peignait plus des murs entre 3h et 5h du matin ou des bouts de train abandonnés dans une gare, finalement, est-ce que le caractère dissident et libertaire, il ne reste pas dans la liberté que vous prenez à peindre des animaux qui n'existent pas, dans un mouvement que vous créez sur une toile ? Est-ce qu'il n'y a pas ça qui demeure ?
C'est exactement ça. Parce qu'en fait, j'ai jamais été dans la dissidence pure en faisant ça. En fait, je l'étais par la force des choses, parce que de faire ça, ça devient politique. Mais finalement, je le faisais pas pour ça. C'était et donc finalement, voilà, c'est la liberté, je pense, qui peut être la toile de fond, tout ça, quoi.
Et la liberté était aussi la toile de fond de Pier Paolo Pasolini. Depuis lundi, c'est aujourd'hui le dernier jour, nous feuilletons tranquillement le recueil Dans le cœur d'un enfant, dans une traduction de Luigi Scandella. C'était une édition reparue aux Actes Sud en 2000. Les poèmes s'appellent Suite Frioulane et la personne qui nous le dit s'appelle Pierre Ancis de la Comédie Française. On l'écoute.
Là, derrière la vitre, sans flamme, au milieu d'une morte campagne, dans un village de lumière, une cloche, proche dans le cœur, lointaine dans le temps. La lumière est ma vie, et on sonne la fête pour moi, dans le ciel rouille. La lumière est ma mère enfant, et elle sonne la fête dans son clair berceau. Derrière le miroir, ma mère enfant joue dans une ruelle sèche. Elle hume les yeux de la Madone parmi les figuiers et les chênes frais de résine. Avec le collier de corail, elle s'encourt, contente, sur les talus. Dans une lueur de vie de 1902, dans un soupir.
Bye.
Alex Swan, Isaac, dernier moment de cette carte blanche musicale, dernier morceau. On n'a pas fait exprès, mais on a suivi un strict ordre chronologique. Ça, c'est un disque qui sort en 2010, qui vient directement de Thaïlande. De quoi s'agit-il ?
Une découverte qui m'a rendu heureux, tout simplement. Et j'adore peindre avec ça.
C'est vrai ? Voilà. Vous écoutez ça en atelier ?
Oui, très fort.
Très très fort.
Tout ça c'était pour montrer aussi l'ouverture finalement par le mur, en partant de mes petits tags, je suis allé, et en fait quand je découvre des choses que j'aime bien, je m'y intéresse.
Est-ce que ça vous est arrivé d'aller peindre bien au-delà maintenant de la barrière de la banlieue parisienne ?
Oula, oui. Oui, j'ai peint. Alors, j'ai pas fait tous les continents, mais je commence à avoir fait quand même pas mal de. Très vite, en fait, pour moi, le graffiti, c'était le voyage. Et très vite, la province, l'Europe, et un peu plus loin.
Il y a quelques murs thaïlandais qui portent certaines de vos peintures
malheureusement,
aujourd'hui.
Malheureusement, non.
Ça ne serait tardé ?
Je sais pas. Pour l'instant, mais j'aimerais bien.
Pour l'instant, vous vous cantonnez à écouter de la funk thaïlandaise très fort dans l'atelier. C'est déjà pas mal. C'est un premier voyage. Merci beaucoup, Alex Swan, d'Isaac, d'avoir été avec nous.
Merci.
On mettra l'ensemble des références musicales sur le site internet et des endroits où aller voir vos œuvres entre les murs officiels pour les autres. On laisse les auditeurs se promener. Pour écouter cette émission et toutes celles de la série Mur qui était très belle, franceculture.fr, vous pourrez vous abonner au podcast de l'émission qui s'appelle Pas la peine de crier, à celui du poème du jour, du Polaroid et de Je déballe ma bibliothèque. Pour nous écrire, un formulaire fonctionne parfaitement. Merci beaucoup pour tous vos mots. On peut aussi se donner des nouvelles sur Twitter. Nous signons collectivement @paslapeinede. Tant de monde derrière la vitre, je suis tout émue. Aux manettes aujourd'hui, Pierrick Monsigny. Merci à Cyril Baer, Romain Debec-de-Lièvre, Inès Duperron qui pense et prépare cette émission avec moi. Une émission réalisée par Miss Anne-Laure Chanel. À lundi.